Conte de Noël et du Nouvel An, de Anton Tchekhov, avec Jean Lescot. Réalisation Catherine Lemire.
Où il est question de champagne. Récit d'un clochard. L'année où commence mon récit, j'étais chef de gare dans une petite station sur l'une de nos lignes du Sud-Ouest. Vous pouvez juger si ma vie était gaie ou ennuyeuse. À 20 verstes à la ronde, il n'y avait ni habitation humaine, ni ferme, ni café convenable. Or, j'étais alors jeune, solide, bouillant, tête en l'air et stupide. Les seules distractions possibles étaient les vitres des trains de voyageurs et une sale eau-de-vie à laquelle les Juifs mêlaient des stupéfiants. Parfois apparaissait à une fenêtre de wagon une tête de femme et tu restes figé comme une statue, le souffle coupé, les yeux fixés sur le train jusqu'à ce qu'il ne soit qu'un point à peine visible. Ou encore, tu bois de l'eau-de-vie répugnante jusqu'à être saoul, tu es comme un possédé et tu ne vois plus passer les longues heures et les longues journées. Sur moi, natif du Nord, la steppe faisait le même effet qu'un cimetière tatar abandonné. En été, avec son calme solennel, le cri-cri monotone des grillons, le clair de lune diaphane auquel on ne peut échapper nulle part, elle m'accablait d'une mélancolie lugubre et, en hiver, sa blancheur immaculée, ses lointains glacés, les longues nuits et les hurlements des loups pesaient sur moi comme un cauchemar. Nous étions peu nombreux à la gare. Ma femme et moi, un télégraphiste sourd et scrofuleux et trois hommes d'équipe. Mon sous-chef, un jeune homme tuberculeux, allait se soigner à la ville où il restait des mois entiers, me confiant son travail et en même temps le droit de toucher sa paye. Je n'avais pas d'enfant. Quant aux visites, on pouvait toujours en attendre, et je ne pouvais aller que chez mes collègues de la ligne, et encore pas plus d'une fois par mois. Au total, l'existence la plus fastidieuse. Je fêtais, je me souviens, le Nouvel An avec ma femme. Nous étions à table, nous mâchions mollement, et nous écoutions le bruit monotone que faisait dans la pièce voisine le télégraphiste en train de taper sur son appareil. J'avais déjà bu 5 verres de vodka au stupéfiant et, ma tête alourdie dans mon poing, je songeais à mon ennui invincible, sans issue. Ma femme était assise à mon côté, les yeux rivés sur mon visage. Elle me regardait comme seule peut regarder une femme qui n'a rien d'autre au monde qu'un beau mari. Elle m'aimait à la folie, comme une esclave. Et elle n'aimait pas seulement ma beauté et mon âme, mais mes défauts, mes colères, mon ennui et même ma cruauté lorsque, dans le délire de l'ivresse, ne sachant sur qui passer ma colère, je l'accablais de reproches. En dépit de l'ennui qui me rongeait, nous nous apprêtions à fêter le Nouvel An avec une solennité inaccoutumée et attendions minuit avec quelque impatience. C'est que nous avions en réserve 2 bouteilles de champagne. Du vrai, avec l'étiquette de la veuve Cliquot. Ce trésor, je l'avais gagné à l'automne dans un pari avec le chef de district à l'occasion d'un baptême chez lui. Il arrive que, pendant la leçon de maths, au moment où l'air se fige d'ennui, un papillon entre par la fenêtre. Les gamins lèvent la tête et suivent son vol avec curiosité, comme s'ils ne voyaient pas un papillon, mais quelque chose de nouveau, d'étrange. Pareillement, même un champagne ordinaire tombé par hasard dans notre ennuyeuse station nous amusait. nous restions silencieux et regardions tantôt la pendule, tantôt les bouteilles. Lorsque l'aiguille marqua 5:00, je me mis à déboucher lentement une bouteille. Je ne sais si la vodka m'avait enlevé mes forces ou si la bouteille était trop humide. Je me souviens seulement que lorsque le bouchon sauta bruyamment au plafond, elle me glissa des doigts et tomba à terre. Il ne s'en perdit pas plus d'un verre parce que je réussis à la rattraper et à boucher du doigt le goulot écumant. « Allez, bonne et heureuse année » fis-je en emplissant les deux verres. « Bois !» Ma femme prit son verre et arrêta sur moi ses yeux remplis d'effroi. Elle avait pâli et son visage exprimait la terreur. Tu as laissé tomber la bouteille ? Me demanda-t-elle. Oui, qu'est-ce que ça fait ? Ce n'est pas bon, fit-elle en posant son verre et en pâlissant encore davantage. Mauvais présage, ça veut dire qu'il nous arrivera malheur cette année. « Ce que tu fais, commère, » dis-je avec un soupir. « Tu es une femme intelligente, mais tu radotes comme une vieille nourrice. Bois. » « Dieu fasse que je radote, mais sûrement il arrivera quelque chose. Tu verras. » Elle n'approcha même pas son verre de ses lèvres, s'éloigna, et devint songeuse. Je débitai quelques vieilles phrases sur les préjugés, but la moitié de la bouteille, fis quelques pas dans la pièce et sortis. Dehors, dans toute sa fraîche beauté hostile, régnait le silence de la nuit. La lune et, près d'elle, deux flocons blancs de nuages pendaient à la voûte céleste, immobiles, comme collés, juste au-dessus de la gare. Et ils semblaient attendre quelque chose. Il en émanait une légère lumière transparente qui effleurait la blancheur de la terre d'une simple caresse comme pour ne pas blesser sa pudeur et illuminait tout. Congère, remblait, pas un bruit. Je marchais le long du remblai. Femme stupide, pensais-je en regardant le ciel parsemé d'étoiles brillantes. En admettant même que les présages disent parfois la vérité, que peut-il nous arriver de mal ? Les malheurs que nous avons déjà subis et ceux qui nous accablent aujourd'hui sont si grands qu'il est difficile d'imaginer pire. Quel mal faire encore aux poissons déjà pris, cuits et servis en sauce ? Un peuplier de haute taille, couvert de givre, surgit dans la brume bleuâtre comme un géant drapé d'un suaire. Il me regarda d'un air sévère et lugubre, comme si, tout comme moi, il comprenait sa solitude. Je le contemplais longuement. « Ma jeunesse s'est consumée pour rien, comme un mégot inutile, » continuai-je en moi-même. Mes parents sont morts quand j'étais encore enfant. On m'a mis à la porte du lycée. Je suis de famille noble, mais je n'ai reçu ni éducation ni instruction. Et mon savoir n'est pas plus grand que celui du premier graisseur venu. Je n'ai ni toit, ni parents, ni amis, ni travail qui me plaise. Je n'ai aucune aptitude... Et en pleine force, je suis tout juste bon à boucher un trou comme chef de gare. Je n'ai connu dans la vie que déboire et malheur. Que peut-il encore m'arriver ? Au loin apparurent des feux rouges. Un train venait sur moi. La steppe endormie en écoutait le grondement. Mes pensées étaient si amères qu'il me semblait penser tout haut, comme si le gémissement du télégraphe et le grondement du train transmettaient mes pensées. Que peut-il encore m'arriver ? De perdre ma femme, me demandais-je ? Cela non plus n'est pas effroyable. On ne peut se cacher de sa conscience. Je ne l'aime pas. Je me suis marié quand j'étais encore un gamin. Aujourd'hui, je suis jeune, solide, tandis qu'elle, elle s'est tassée, elle a vieilli, elle s'est abrutie, elle est bourrée de préjugés, de la tête aux pieds. Qu'y a-t-il de bon dans son amour fade, sa poitrine affaissée, son regard fané ? Je la supporte, mais je ne l'aime pas. Que peut-il arriver ? Je perds ma jeunesse, comme on dit, pour une prise de tabac. Les femmes ne passent devant moi qu'aux portières des wagons comme des étoiles filantes. Il n'y a pas eu et il n'y a pas d'amour pour moi. Ma mâle fermeté, mes hardiesses, mes élans sont perdus. Tout s'en va en poussière et mes richesses, ici, dans la steppe, ne valent pas un liard. Le train passa devant moi dans un fracas et m'éclaira avec indifférence de ses fenêtres rouges. Je le vis s'arrêter au feu vert de la gare, marquer l'arrêt une minute et repartir. Après avoir fait environ deux verstes, je retournais sur mes pas. Mes tristes pensées ne me quittaient pas. Si amer que ce fut, j'essayais en quelque sorte, je me souviens, de les rendre plus tristes et plus sombres. Vous savez qu'il y a des moments où le sentiment d'être malheureux procure une certaine satisfaction aux êtres bornés et pleins d'amour-propre et qu'ils font parade à leurs propres yeux de leur souffrance. Il y avait beaucoup de vrai dans mes pensées, mais aussi beaucoup d'absurdité, d'outrecuidance et quelque chose de puérilement provoquant dans ma question, que peut-il arriver de mal ? Oui, qu'arrivera-t-il ? Me demandais-je en revenant. J'ai l'impression d'avoir tâté de tout. J'ai été malade, j'ai perdu de l'argent, je me suis fait semoncer chaque jour par mon chef, je ne mange pas à ma faim, et un loup enragé est venu dans la cour de la gare. Quoi encore ? On m'a offensé, humilié, et j'ai offensé les autres en montant. La seule chose que je n'ai jamais été, c'est, je crois bien, criminel. Mais je n'ai, semble-t-il, aucune aptitude pour le crime. Quant à la justice, elle ne me fait pas peur. Les deux nuages s'étaient éloignés de la lune et s'était arrêtée non loin avec l'air de parler à voix basse de quelque chose qu'elle ne devait pas savoir. Un léger souffle passa sur la steppe, apportant le grondement assourdi du train qui s'éloignait. Ma femme vint m'accueillir sur le pas de la porte. Ses yeux riaient et tout son visage respirait la satisfaction. « Il y a du nouveau !» me fit-elle à l'oreille. « Va vite dans ta chambre, passe ta tunique neuve, nous avons une visite !»« Qui donc ?»« Ma tante Nathalie vient d'arriver par le train !»« Quelle tante Nathalie ? La femme de mon oncle Simon ! Tu ne la connais pas, elle est très bonne, gentille !» Je fis probablement la moue parce que ma femme prit un air sérieux et ajouta rapidement à voix basse. « Bien sûr, il est bizarre qu'elle soit venue, mais ne te fâche pas, Nicolas, et sois indulgent. Elle est malheureuse. Mon oncle est un vrai tyran, un méchant. La vie avec lui est difficile. Elle dit qu'elle ne restera que 3 jours pour attendre une lettre de son frère. » Elle murmura encore un long moment, je ne sais quelle fadaise, sur le tonton tyran, sur la faiblesse humaine en général, et celle des jeunes femmes en particulier, sur notre devoir de donner asile à tous, même aux grands pêcheurs, etc. Sans y comprendre rigoureusement rien, j'enfilai ma tunique neuve et allai faire connaissance avec Tata. Je trouvai, assise à table, une petite femme aux grands yeux noirs. Ma table, les murs gris, le divan rustique, tout, me semble-t-il, jusqu'au moindre grain de poussière, se trouvait rajeuni et égayé par la présence de cet être nouveau, jeune, exhalant une sorte de parfum subtil, beau et dépravé. Que notre tata fut dépravé, je le compris à son sourire, à sa façon particulière de regarder et de jouer des cils au ton avec lequel elle parlait à ma femme, une honnête personne. Elle n'eut pas besoin de m'expliquer qu'elle avait quitté son mari, que son mari était un vieil homme et un tyran, qu'elle était bonne et gaie. Je compris tout du premier coup d'œil et je doute qu'il y ait en Europe des hommes incapables de distinguer du premier coup d'œil une femme d'un certain tempérament. Je ne savais pas que j'avais un aussi grand neveu, fit-elle en me tendant la main avec un sourire. Et je ne savais pas que j'avais « une si jolie tante, » répondis-je. On soupa une deuxième fois. Le bouchon de la seconde bouteille sauta bruyamment. Ma tante vida d'un trait un demi-verre et, quand ma femme sortit pour un instant, elle ne fit plus de cérémonie et vida un verre entier. J'étais ivre de vin et de la présence de la femme. Vous rappelez-vous la chanson « Yeux noirs, yeux passionnés, yeux ardents et magnifiques, que je vous aime, que je vous crains ». Je ne me rappelle plus ce qu'il advint ensuite. Qui veut savoir les commencements de l'amour n'a qu'à lire romans et nouvelles. Moi, je ne dirai que peu de choses, et toujours avec les mots de la même romance stupide. Sans doute vous ai-je vu à l'heure fatidique, tout à la haut diable, cul par-dessus tête. Je me souviens d'un tourbillon terrible, exaspéré, qui m'emporta comme une plume. Il me fit tourbillonner longtemps et balaya de la surface de la terre ma femme, ma tante même et ma vigueur. D'une gare au milieu de la steppe, il m'a jeté, comme vous le voyez, dans cette rue obscure. Dites-moi maintenant, que peut-il encore m'arriver ?
C'était les contes de Noël et du Nouvel An, de Anton Tchekhov, avec Jean Lescot. Prise de son, montage, mixage, Noélie Pellegrin, Marie-Thérèse Ferrand. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Catherine Lemire. Я не в добрый час, очень черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные, как люблю я вас. Как боюсь я вас, знать увидел вас, я не в добрый час.